Bienvenue dans notre église de Toulouse-Ouest, que Dieu vous bénisse. C'est encore le début d'année, il nous reste 5 jours en janvier, j'ai encore le droit de vous souhaiter une année bénie. Pas une bonne année, mais une année bénie. C'est pas tout à fait pareil. On s'attend aux grâces du Seigneur encore cette année, on s'attend à lui. Il était là en 2024, on s'attend encore à lui en 2025. Même quand les circonstances sont difficiles. On connaît l'exemple de Job qui a tout perdu, mais il avait gardé sa relation avec Dieu, c'est-à-dire l'essentiel. Amen. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand c'est le début d'année, j'ai plein de bonnes intentions. J'ai des bonnes résolutions, comme on dit. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Alors c'est, le champ est très large. Hein. Les résolutions, ça peut être pour des petites choses du quotidien, comme des projets plus importants. Alors les petites choses du quotidien, j'ai lu un sondage, c'est Ipsos. C'est-à-dire c'est très sérieux, c'est un institut de sondage très sérieux. Qui a divulgué les résolutions les plus courantes. La plus importante, celle qui revient le plus souvent, c'est pratiquer une activité sportive ou physique régulière. C'est 34% des personnes interrogées, donc c'est pas rien. La deuxième, c'est passer plus de temps avec sa famille. Pas mal, 23%. La troisième, parce qu'il y en avait 10, mais je vais en citer que 3, c'est se réserver de vrais moments de détente, 23%. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, des petits projets. C'est des projets du quotidien, c'est des projets de tous les jours, mais qui peuvent avoir une, à la fin de l'année, qui peuvent produire un vrai changement. Et après, il y a les projets qui sont plus grands. En janvier, c'est le temps de faire les projets pour l'année. Je vais déménager, je vais changer de travail, je vais me marier, on veut avoir un enfant, acheter un véhicule. Bon, les projets, ils ne manquent pas. Mais c'est vrai que c'est un moment particulier, c'est un moment plaisant parce que c'est le début de l'année, tout est à faire, tout est à construire, il y a l'année entière devant nous, donc c'est un moment assez exaltant, c'est un moment où, en tout cas que personnellement j'aime bien. Le seul problème, c'est que on fait des projets et on a une tendance qui parfois pose des problèmes, c'est que on part vite. On a un projet, on s'est dit c'est le bon projet, c'est la bonne idée, cette année c'est vraiment ça qu'il me faut, et donc on y va, on démarre à fond, on perd pas une seconde. Et c'est là justement que les problèmes peuvent commencer ou vont arriver. Surtout si, et je parle à nous qui sommes chrétiens ou nous qui nous approchons du Seigneur, surtout si nous avons démarré le projet ou si nous nous sommes lancés dans la course sans en parler à notre Seigneur Jésus. Je crois que pour nous qui sommes chrétiens, c'est essentiel. Avoir cette relation avec Jésus qui fait que quand on a une idée, quand on a un projet, quand on a quelque chose qui nous vient à l'esprit, avant toute chose, avant de démarrer toute chose, notre réflexe, ce qui est finalement naturel pour nous, c'est de lui en parler. C'est de lui présenter le projet, c'est de lui soumettre, de lui demander son avis, et puis de nous assurer quand on le démarre qu'il est avec nous, qu'il est OK avec ce projet, qu'il le valide. C'est important parce que la Bible dit que Dieu nous a donné la victoire par son Fils Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand on s'embarque dans un projet avec Jésus, moi, je ne suis pas très inquiet sur l'issue du projet. Par contre, si on s'embarque dans un projet, mais que Jésus n'est pas là, on court à la catastrophe. Et là, les ennuis arrivent très vite. Donc, on a dit des grands projets, des plus petits projets. Mais dans les plus petits projets aussi, c'est important que Jésus soit présent avec nous dans le quotidien, qu'il soit là tous les jours, même dans les plus petites décisions, même dans les plus petits choix. C'est important que nous lui soumettions ces choses-là. Malheureusement, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, on est le 26 janvier, et je suis sûr que parmi nous, il y a des personnes qui ont démarré des projets depuis le 1er janvier, qui sont en train de se dire, après tout, ce projet-là, est-ce que je l'ai bien présenté au Seigneur ? On a prévu de partir en vacances cet été, c'est pas grand-chose, partir en vacances, c'est pas un projet, mais est-ce que j'ai présenté ce projet au Seigneur, après tout ? Est-ce qu'il est OK sur la destination ? Est-ce qu'il est OK sur le contenu des vacances, ce qu'on a prévu? Je crois qu'on a cette tendance qui est, on va le voir, commune à beaucoup de personnes, d'oublier Jésus. On l'oublie. On le néglige, on le met de côté. On veut faire des choses par nous-mêmes, on est inspiré par des choses diverses et variées. Et puis on se laisse happer par ces choses-là. Et on démarre, on avance, et puis on a oublié Jésus. On l'a négligé, on l'a laissé dans un coin. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions ce matin autour de trois questions. Quelles sont les circonstances qui nous amènent à oublier Jésus? Quel est le chemin? Quel est le chemin pour le retrouver une fois qu'on l'a perdu? Et puis quand on l'a retrouvé, quelles sont les bénédictions auxquelles on peut s'attendre? On va lire un texte, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. Luc, chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voilà, les parents de Jésus sont partis à Jérusalem comme tous les ans pour la fête de Pâques. Ils sont partis avec leur famille, leurs amis, c'est leur projet annuel, partir à Jérusalem. Et puis, une fois que la fête est terminée, ils rentrent chez eux, ils repartent avec leurs amis, ils retournent à Nazareth. Mais dans la précipitation, ils oublient Jésus à Jérusalem et ils s'en rendent compte une fois que le voyage est entamé. Et pour le coup, ils l'ont littéralement oublié à Jérusalem, ils vont devoir revenir en arrière pour le chercher. Et comme je disais tout à l'heure, oui, nous pouvons perdre Jésus. C'est possible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Plusieurs fois, je l'ai perdu par ma faute. Donc ce texte nous montre 7 raisons qui font qu'à un moment donné, je perds ou j'oublie Jésus. Nous perdons ou nous oublions Jésus. Première raison, c'est l'habitude. L'habitude, mais en tant que disposition de cœur. Est-ce qu'on vient dans ce lieu ce matin par amour pour Jésus? Est-ce qu'on vient dans ce lieu ce matin par habitude? Est-ce que je viens le dimanche parce que j'ai l'habitude de venir? C'est comme ça, c'est dans mon emploi du temps, c'est noté. Je viens tous les dimanches. Ou bien je viens véritablement dans une démarche d'amour et d'adoration pour Jésus. Au verset 41, Luc 2, 41, il est dit « Ils allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. » Chaque année. Donc chaque année, il y avait une habitude. Et au verset 42, selon la coutume de la fête. Je crois qu'il faut veiller sur la façon dont on fait les choses, l'attitude de cœur avec laquelle on fait les choses vis-à-vis de Dieu. Faire des choses vis-à-vis de Dieu, c'est pas faire des choses vis-à-vis d'une personne lambda dans ce monde. C'est pas la même chose. Notre relation avec Jésus, c'est une relation particulière, qui demande une attitude de cœur particulière, qui n'est pas une attitude de cœur qui est guidée par l'habitude, qui est dictée par la coutume. C'est pas ça notre relation avec Jésus, ça ne doit pas être ça. Notre relation avec Jésus doit être guidée par l'amour que l'on a pour lui. Jésus lui-même va s'adresser un jour aux scribes et aux pharisiens, il va leur citer Ésaïe, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 7 et verset 6. Il leur dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » On peut honorer Jésus des lèvres sans que notre cœur l'honore, sans que notre cœur soit tourné vers lui, c'est possible. Et un peu plus loin, au verset 8, il ajoute « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il y a un danger dans l'habitude, il y a un danger dans la coutume, la tradition, la religion. Est-ce que nous faisons les choses automatiquement? Est-ce que nous faisons des choses dénuées d'amour? Est-ce que nous faisons des choses dictées par ces habitudes-là? Est-ce que nous faisons les choses pour Dieu? Est-ce que nous faisons les choses pour Jésus? Ou est-ce que nous les faisons pour nous, pour nos habitudes, pour nos traditions, pour nos coutumes? Jésus ne condamne pas toutes les coutumes, hein, toutes les habitudes, loin de là. Par contre, ici, il pointe du doigt celles qui n'honorent pas Dieu, celles qui ne respectent pas la parole de Dieu. Est-ce que nous allons devant Dieu avec un cœur rempli de sincérité? Ou est-ce que nous allons devant Dieu par coutume? Jésus lui-même est appelé dans l'Épître aux Romains celui qui sonde les cœurs. Jésus connaît nos cœurs. Jésus regarde nos cœurs. Il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Jésus lui-même a dit que Dieu connaît nos cœurs. Et le psaume 145 dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent, il ajoute avec sincérité. Avec sincérité. Il y a une condition. L'attitude de cœur, elle est importante. Deuxième raison, dans le texte que nous avons lu, qui peut conduire à l'oubli de Jésus, je dirais que c'est l'absence de prière. Quand on relit ce texte, on se rend compte que personne ne prie. Ni les parents, ni les amis qui sont là, ni les compagnons, ni la famille. À partir du moment où on se rend compte qu'on a oublié l'enfant jusqu'au moment où on le retrouve, personne ne prie. Peut-être que l'auteur n'a pas voulu le mentionner. Peut-être qu'ils ont prié, mais que l'auteur n'a pas voulu le mentionner parce que son objectif en écrivant ce texte était ailleurs. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de prière. Et moi, ça m'a interpellé. La prière, c'est important. La prière, c'est notre connexion à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel nous entrons en relation avec lui. La prière, c'est le moyen pour nous d'avoir une intimité avec Jésus. La qualité de notre vie de prière reflète la qualité de notre amour pour Jésus. L'intensité de notre vie de prière, l'intensité de notre relation avec Jésus reflète la sincérité de notre cœur. C'est très lié avec le point précédent. Est-ce que je prie par habitude? Est-ce que je prie par coutume? Est-ce que je prie par amour pour Jésus? C'est pas la même chose. On peut citer l'exemple d'Adam et Ève. Quand vous relisez les premiers livres de la Genèse, vous vous rendez compte que Dieu parlait à Adam et Ève. Dieu parlait beaucoup à Adam et Ève. Mais jusqu'à la chute, jamais Adam ou Ève ne parle à Dieu. Jamais aucun des deux ne prie. Et on voit que, quelque part, il y avait une relation qui n'était pas celle qu'on espère tout savoir avec Dieu, c'est-à-dire une relation, une communication, un face-à-face, une vraie relation. Là, c'était Dieu qui leur parlait. Mais eux ne lui parlaient pas. Et cette situation a conduit à la chute. Vous connaissez l'histoire. Et pour revenir à notre sujet, je crois que c'est important de prier pour plein de raisons, mais il y en a une qui est essentielle et je le relie au sujet qui est oublier Jésus. Il est impossible d'oublier Jésus si vous avez une relation quotidienne avec lui. Vous ne pouvez pas oublier Jésus si vous avez une relation avec lui plusieurs fois par jour. C'est impossible. C'est impossible. Si vous avez un ami proche, un très bon ami, que vous côtoyez tous les jours, vous avez peut-être un collègue de travail, je ne sais pas, un ami que vous fréquentez dans vos activités, si vous le voyez tous les jours, que vous lui parlez tous les jours, c'est impossible que vous l'oubliez. C'est pareil avec Jésus. Si vous installez une relation avec lui, si vous passez du temps dans la prière, si régulièrement vous concentrez pour un cœur à cœur avec lui, c'est impossible de l'oublier. Et vous savez ce que dit la Bible à ce propos, 1 Thessaloniciens 5:17, le conseil qui est donné, c'est prier sans cesse. Priez tout le temps, priez en tout temps, dans les bons temps, dans les mauvais temps. Priez sans cesse. L'absence de prière. Troisième raison qui peut nous amener à oublier Jésus, c'est la distraction ou les distractions. On peut en avoir beaucoup, des distractions dans nos vies. Je crois que c'est la conséquence là aussi du point précédent. On n'a pas de vie de prière. C'est-à-dire, je ne remplis pas ma vie de la présence de Jésus. Je ne remplis pas ma vie d'une relation avec lui, je n'ai pas d'intimité avec lui. Donc forcément, autre chose va venir prendre la place. De quoi je vais nourrir ma vie? De quoi je vais nourrir mon cœur? Quelle lecture? Quel film? Quelle discussion? Quels amis? Quelle priorité? Au verset 44, Luc 2, 44, il est dit « Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. » Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Qu'est-ce qui peut nous distraire au point d'oublier notre enfant pendant un jour? Quelque chose de puissant. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose de puissant. Oublier son enfant pendant un jour. Il y a des parents ici, je pense que vous réalisez. On oublie son enfant pendant un jour parce qu'on a pensé à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. En 2025, c'est vrai que pour nous qui sommes chrétiens en 2025, il y a des bénédictions. On n'a jamais eu autant accès à toutes choses qui nous permettent de mieux connaître Jésus, de mieux connaître Dieu. Des librairies, des livres, des musiques, des films. On a accès à tout ce qu'on veut. Tout ce qui peut nous permettre de nous nourrir de la parole de Dieu. On a accès très facilement à beaucoup de choses. On a aussi du temps en 2025. Quand on travaille en 2025, on a des congés, on a des RTT, on a des soirées, on a des week-ends. Les générations qui étaient avant nous, à une certaine époque, n'avaient pas tout ça. On est vraiment gâtés en 2025. On a ce qu'il faut pour se nourrir et on a du temps pour le faire. Mais en même temps, on n'a jamais été sollicité par les distractions qu'en 2025. Elles viennent de partout. Vous allumez votre téléphone, vous allumez votre télé, vous sortez dans la rue, vous prenez le métro. Les distractions viennent de partout. Vous êtes sollicité de partout. Ce qui me fait penser que pour gagner Jésus, il faut se battre. C'est très facile de se perdre, c'est très facile d'être pris par les distractions et de tourner le dos, d'oublier Jésus. C'est très facile. Il faut se battre contre tout ce qui vient jour après jour nous distraire, tout ce qui vient jour après jour gratter de notre temps, de notre attention et qui fait que nous nous éloignons de Jésus, que nous oublions Jésus. Il faut se battre pour ça. Paul disait quoi ? Paul disait, tout cela je le regarde comme de la boue pour gagner Jésus. Tout cela je le regarde comme de la boue pour gagner Jésus. De gagner Jésus, ça coûte. Gagner Jésus, ça demande un effort. Gagner Jésus, ça demande du temps. Et ça demande une disposition, pas une disposition de cœur. Nous avons une disposition de cœur à prendre vis-à-vis de Jésus. Sinon, on l'oublie. Quatrième raison, l'entourage. On peut s'intéresser là aussi aux compagnons de voyage. Ils sont cités dans le texte. Qui sont nos parents et nos connaissances ? C'est au verset 44. Ils étaient avec des parents et des connaissances. Qui sont ceux qui marchent avec nous ? Qui est notre entourage ? Qui compose notre entourage ? Qui sont nos amis ? Qui sont ceux, le jour où on va oublier Jésus, parce que ça arrivera, qui sont ceux qui seront autour de nous à ce moment-là ? Est-ce qu'on aura autour de nous des compagnons de voyage qui vont marcher à côté de nous, dans le sens inverse de l'endroit où est Jésus ? Ou est-ce qu'on va avoir des compagnons de voyage qui vont nous dire « Attention, là, il se passe quelque chose. Là, tu es en train d'oublier Jésus. Là, tu l'as négligé. Fais attention. Fais attention, mon frère, ma sœur, fais attention. » Pense-y, reviens vers lui, cherche-le. Est-ce qu'on aura cet entourage-là ? C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas quand la situation va se produire. C'est maintenant que nous devons penser à bien nous entourer. Jésus nous a donné des frères et des sœurs. C'est pour une bonne raison. Il sait que cette communion fraternelle est importante. Nous sommes le corps de Christ. Vous ne trouverez personne de mieux qu'un fils ou une fille de Dieu pour vous conseiller. Dans ce monde, vous ne trouverez personne de mieux pour vous conseiller que quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a une relation avec Jésus. Le jour où vous allez être perdu, le jour où vous allez avoir oublié Jésus, le jour où vous allez vous rendre compte qu'il n'est plus là, l'ami que vous allez avoir à côté de vous, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous rapprocher de lui ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vous éloigner encore plus ? C'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Cinquième point, l'égocentrisme, c'est le fait de tout rapporter à soi. Le fait de tout ramener à soi, le fait de se considérer comme le centre, c'est un véritable danger, quelque chose qui peut nous faire oublier Jésus. Verset 43, Luc 2, 43, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils s'en sont pas aperçus. Ils sont venus à Jérusalem avec Jésus, ils sont repartis sans Jésus. Quelqu'un vient ce matin dans cette église avec Jésus, il va repartir tout à l'heure sans Jésus. Et il ne s'en apercevra pas. Il va s'en rendre compte lundi, mardi ou mercredi, je ne sais pas quand. Quand nous venons dans ce lieu, on parlait tout à l'heure de sincérité, mais quand nous venons dans ce lieu, nous venons pourquoi ? Est-ce que nous venons par amour ? Ou est-ce que nous venons dans un but précis ? On vient chercher quelque chose, on vient chercher une bénédiction, on vient chercher une réparation, on vient chercher une délivrance, une guérison. Et quand on l'a obtenue, on repart, et qu'est-ce qu'on en fait ? On est content de ce qu'on a reçu pour nous, ou on rend gloire à celui qui nous a donné. Malheureusement, nous oublions trop souvent que Jésus est l'auteur de ses bénédictions. On l'oublie trop souvent. Et quand on est égocentré, quand on pense qu'à nous, en fait, on est privé de l'essentiel, on est privé de l'amour. L'amour que Jésus nous donne, on ne le perçoit même plus, parce qu'on ne perçoit que nous. On a de l'intérêt que pour nous. Jésus lui-même savait tout ça. Quand on voit les conseils que Jésus donnait aux hommes, il leur disait « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est le contraire de l'égocentrisme, aimer les autres comme soi-même. C'est le contraire de l'égocentrisme. C'est donner aux autres. Jésus lui-même a dit que si quelqu'un veut être son disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive, qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi-même. C'est vraiment l'antithèse de l'égocentrisme. C'est tout l'inverse. Et Jésus sait que celui qui est centré sur sa personne, celui qui regarde sa personne, celui qui fait passer sa personne avant toute chose, celui-là, il n'a pas une disposition de cœur qui fait qu'il y a un cœur à cœur avec Jésus. Il y a un véritable danger avec l'égocentrisme. Centrons-nous sur Jésus. Centrons-nous sur lui. C'est le meilleur moyen de ne pas l'oublier. Sixième point, l'ingratitude. Là aussi, l'égocentrisme, l'ingratitude, elle arrive juste après. En général, ça va avec. C'est la conséquence. Jésus, c'est vrai, je t'ai perdu, je t'ai oublié, mais c'est de ta faute. Moi, je suis pour rien. Je suis un pauvre humain. C'est toi, tu aurais dû rester avec moi. Au verset 48, Luc 2, 48. Mon enfant, c'est sa mère qui lui parle, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Franchement, objectivement, dans la situation là, est-ce qu'on dirait que c'est plus les parents qui ont oublié l'enfant ou que c'est l'enfant qui n'a pas suivi les parents? Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Si tu oublies Jésus, si tu l'abandonnes, si tu lui tournes le dos, le jour où tu le retrouves, je pense que c'est la dernière question à lui poser. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est là. Emmanuel est là. Il est présent dans ce lieu. Il est présent à côté de nous. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous qui nous privons de sa présence. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Luc 17, l'histoire qui raconte comment Jésus a guéri 10 lépreux. Il guérit 10 lépreux et puis ils repartent. Ils s'en vont. Et puis, sur les 10, il y en a un qui revient. Il y en a un qui revient vers Jésus pour le remercier. Et Jésus va dire que celui qui est revenu a rendu gloire à Dieu. La gratitude, c'est très important. Revenir. Revenir vers Jésus et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. L'attitude de cœur qui plaît à Jésus. Et Jésus va même aller plus loin en disant de cet homme, sa foi l'a sauvé. Il va dire à cet homme, celui qui est revenu pour le remercier, il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et ce qu'il veut dire, si je lis bien ce que dit Jésus, si je comprends bien ce qu'il me dit là, ça veut dire que la gratitude, c'est un acte de foi. C'est pas juste un remerciement. La gratitude, c'est l'expression de notre foi pour Dieu. Et si cela est vrai, l'inverse est donc vrai aussi. C'est-à-dire que l'ingratitude, quand nous ne remercions pas Dieu, l'ingratitude, si la gratitude est un acte de foi, l'ingratitude est un acte qui démontre notre manque de foi, d'incrédulité. Celui qui n'a pas de gratitude pour Dieu, il est incrédule. Dans le fond de son cœur, il est incrédule. Celui qui ne rend pas grâce à Dieu, il ne croit pas. Septième point, l'immaturité spirituelle. Je pense que c'est la somme de tout ce qu'on a vu avant, en fait. Où l'immaturité spirituelle englobe tout ça, tout ce qu'on a dit. L'égocentrisme, l'ingratitude, l'habitude, les distractions, l'entourage, etc. Si tout cela est défaillant chez nous, c'est globalement que, spirituellement, nous manquons de maturité. Dans ce passage que nous avons lu, Luc 2, au verset 42, on nous dit que Jésus avait alors 12 ans. Et je crois que ça nous parle de notre âge spirituel. Quel âge spirituel avons-nous? Est-ce que nous avons un Jésus de 12 ans? Ou est-ce que dans notre vie, nous avons un Jésus qui a grandi et qui est pleinement formé? quel est notre Jésus? Est-ce que nous l'avons laissé grandir en nous? Est-ce que nous lui avons laissé la place? Ou est-ce que nous avons laissé d'autres choses prendre la place et il est resté à l'âge de 12 ans? On dit que quand un chrétien vient à Dieu, on dit il est né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. S'il y a une nouvelle naissance, alors il y a un début, il y a un commencement, il y a une enfance. Est-ce que nous sommes restés enfants? Est-ce que nous avons grandi? Dans Hébreux 5:12, il est dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Ça nous dit qu'il y a des étapes. Ça nous dit qu'à un moment donné, nous sommes des enfants. Nous avons du lait spirituel. Mais un jour, nous sommes des maîtres. Non plus des hommes, mais des maîtres. Voilà à quoi nous projette la parole de Dieu, à devenir des maîtres. Voilà l'ambition de Dieu pour nous, c'est devenir des maîtres. C'est pas rester des enfants, c'est pas avoir un Jésus de 12 ans, c'est avoir un grand Jésus dans notre vie. C'est avoir un Jésus pleinement formé. Voilà pourquoi il est important de travailler tous ces comportements, tous ces compartiments de nos vies qui, un par un, peuvent nous amener à oublier Jésus, mais quand ils sont là tous ensemble, nous sommes très très loin de lui. Approchons-nous de Jésus, il ne demande que ça, grandir en nous. Parlons des sept attitudes maintenant qui caractérisent ceux qui recherchent vraiment Dieu, ceux qui recherchent vraiment Dieu de tout leur cœur. Elles sont présentes aussi dans le texte que nous avons lu. La première attitude et la première étape qui est très importante, c'est que ceux qui recherchent Jésus, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils l'avaient perdu. Ça peut paraître bête, mais pour le chercher, il faut se rendre compte qu'on l'a perdu. Au verset 44, il est dit « Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. » Donc, ils commencent à le chercher. Donc, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était plus là. Ils ont réalisé. Et où est-ce qu'ils cherchent en premier? Au mauvais endroit. À l'endroit le plus logique, à ce moment-là, qui est de le chercher là, tout de suite, dans la foule, dans les amis, c'est l'endroit le plus logique, mais c'est le mauvais endroit. Quand tu as perdu Jésus, quand tu l'as oublié, où est-ce que tu vas le chercher? Tu vas le chercher là où tu es. Tu es chez toi, dans ton salon, tu pries. Seigneur, où es-tu? Je ne sens plus ta présence. Mais pourquoi Jésus n'est plus là? D'habitude, je priais dans mon salon et il était là. Je sentais sa présence. Mais il n'est plus là. Et pourquoi il n'est plus là? C'est le premier endroit où on le cherche, c'est là où nous sommes. Il va falloir un peu plus. Parce que entre le moment où nous l'avons perdu et le moment où nous en rendons compte et nous commençons à le chercher, il est passé du temps. On a peut-être mis des projets en route. On a peut-être fait des erreurs qui nous ont amenés plus ou moins loin de Jésus. Il va falloir se battre pour le retrouver. C'est plus aussi simple là de rentrer dans sa présence. Cette étape est donc décisive parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était plus là. Et c'est le début de la reconstruction de la relation avec Jésus. Peut-être que quelqu'un d'ailleurs ce matin se rend compte que depuis quelque temps il n'est plus dans la présence de Jésus, que depuis quelque temps il l'a oublié ou négligé. Quelqu'un se rend compte de ça ce matin. La deuxième attitude, c'est qu'une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était plus là, ils prennent la décision de le retrouver. Et là, la décision, c'est un moment important, c'est un moment décisif. C'est le point d'inflexion, c'est le moment où la situation bascule. Il y a un avant et un après. À partir du moment où j'ai pris une décision ferme et où je m'y tiens, il y a un changement qui commence à s'opérer. Verset 45, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ça y est, ils ont mis un terme à leur retour à Nazareth. C'est pas possible. On peut pas continuer ce projet sans Jésus. C'est pas possible. On n'essaye même pas de continuer. On retourne en arrière. On reprend le projet à zéro. On retourne à Jérusalem. On va chercher Jésus. On le prend avec nous et on reprend le projet. On retourne à Nazareth avec lui. Ils vont à Jérusalem. Pourquoi? Ils savent qu'il est là-bas. Dans leur cœur, ils savent qu'il est là-bas. Jésus a dit, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Nous savons où est Jésus et nous en connaissons le chemin. Le jour où nous le cherchons, cherchons pas là, à côté de nous. Il est peut-être beaucoup plus loin que ça, mais nous connaissons le chemin. Il nous a dit où il était. Quelqu'un a peut-être une décision à prendre aujourd'hui. On parle de décision là, mais quelqu'un a oublié Jésus. Quelqu'un l'a ignoré pendant quelques semaines, des mois, des années, peut-être une vie. Quelqu'un a une décision à prendre maintenant. De le rechercher avec sincérité. Troisième attitude, il persévère. C'est très important. Persévérer, c'est très important. Il n'est pas là tout de suite. On l'a cherché au mauvais endroit. On ne sent pas sa présence. On a décidé de retourner le chercher. Mais ça va être long, ça va être difficile. Alors il va falloir persévérer. Au verset 46, il est dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent. 3 jours. C'est très facile de perdre Jésus. Ça peut être beaucoup plus difficile de le retrouver. Ça va nous demander vraiment une sincérité qu'il va falloir aller chercher au-dedans de nous, que nous avons perdu. Il aura fallu 1 jour pour se rendre compte que Jésus n'était plus là. Il aura fallu 3 jours pour le retrouver. 3 fois plus de temps. Je ne sais pas combien de temps il faut pour retrouver la présence de Jésus. Je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend de nos vies, ça dépend de nos épreuves, nos difficultés. C'est variable. Alors il faut prier. Il faut prier, prier, prier jusqu'à ce qu'on le retrouve, jusqu'à ce qu'on ressente sa présence, jusqu'à ce qu'on retrouve vraiment cette connexion, cette communion avec lui. Prier. S'il faut jeûner, on jeûne. S'il faut prier, on prie. Je prie 30 minutes, il n'est pas là. Je prie 1 heure, je prie 2 heures, je prie 3 heures. Je vais prier jusqu'à ce que je ressente sa présence. Je vais jeûner jusqu'à ce que je ressente sa présence. Je ne vais rien lâcher. J'irai jusqu'au bout parce que mon objectif, c'est le retrouver. Mon objectif, c'est sentir sa présence. C'est pas juste, ouais, je l'ai décidé, on va essayer de le faire. On va essayer d'avancer comme ça. Je vais essayer de le retrouver, c'est pas ça. Quatrième attitude, il souffre. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont un jour été privés de la présence de Jésus, ils savent ce que c'est. C'est un moment de souffrance. Mais vraiment, c'est un moment de souffrance. C'est un moment de souffrance parce qu'il n'est plus là, c'est un moment de souffrance parce qu'il n'est plus là de notre faute. Nous l'avons négligé, nous l'avons oublié, nous lui avons tourné le dos. Nous l'avons laissé dans un coin. Au verset 48, sa mère lui dit, « Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Avec angoisse. Le mot « angoisse » ici, en grec, c'est le mot « odunao ». « Odunao » qui signifie la souffrance, le chagrin continuel, le tourment. C'est pas juste un peu triste. Hein. C'est le même mot grec « odunao » qui est utilisé. Vous connaissez la parabole de l'homme riche et Lazare. Vous connaissez cette parabole. Donc, l'homme riche, il va finir en enfer et il va être tourmenté dans l'enfer. C'est le même mot, odunao, qui est utilisé dans cette parabole pour exprimer ce que ressent cet homme. Voilà ce que c'est chercher Jésus avec angoisse. C'est souffrir jusqu'au tourment. C'est souffrir d'un chagrin continuel. Cinquième attitude, il le retrouve là où il l'avait laissé. C'est finalement l'endroit le plus simple pour le retrouver. C'est de revenir là où on l'a laissé. C'est quand la dernière fois que j'étais avec Jésus? C'est quand la dernière fois qu'il était avec moi? C'est quand la dernière fois que on était face à face? C'est quand la dernière fois qu'il m'a parlé? Et c'est pas anodin que il revienne à Jérusalem, il retrouve Jésus où? Il retrouve Jésus dans le temple. Parce que le temple symbolise la relation, la présence de Dieu. Et c'est là que Jésus vient chercher la relation avec son Père. C'est pas anodin. Retournons dans le cœur du Père. C'est là qu'est Jésus. Tournons-nous avec sincérité vers Dieu, tournons-nous avec sincérité vers le Père. C'est là que nous trouverons Jésus. Sixième attitude, ils sont dans l'incompréhension. Au verset 48, il est dit, ils furent saisis d'étonnement. Au verset 49, Jésus leur dit, ne saviez-vous pas? Au verset 50, il est dit, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Jésus leur parle, mais ils ne comprennent pas. Alors que Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Et quand la parole te parle et que tu comprends pas, c'est que tu es vraiment loin de lui. Tu es vraiment loin de lui. Pour nous qui avons reçu Christ, pour nous qui aimons sa parole, pour nous qui sommes nés de nouveau, la parole nous révèle des choses. Nous comprenons la parole. parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes immergés dans son Saint-Esprit. Mais celui qui est éloigné, celui qui est oublié, il ne comprend plus. Il ne comprend plus rien. Lui ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne jamais. Son Saint-Esprit est toujours avec nous. Son Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Mais il peut diminuer. 1 Thessaloniciens 5,19 nous dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Pourquoi ? Parce que le péché a toujours des conséquences. Une des définitions du péché, c'est de nous priver de la présence de Dieu. C'est de nous priver de la relation avec Jésus. Voilà pourquoi il est tellement important de revenir à lui, de le chercher jusqu'à le trouver et lui confesser nos péchés. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il va nous purifier de tout mal. 7e attitude, ils le recherchent de tout leur cœur. Ils le recherchent vraiment de tout leur cœur. Pendant 3 jours, ils vont fouiller Jérusalem partout, je les imagine, chercher leur enfant pendant 3 jours, avec angoisse, frapper aux portes, aller dans les maisons, aller dans les rues, dans les marchés. Vous avez vu Jésus ? Vous avez vu mon fils ? Il a 12 ans, moi ça m'est arrivé un jour de plus savoir trop où était mon enfant, mais vous savez, il était pas très loin, hein. C'était dans un magasin, il était juste dans le rayon d'à côté, mais on transpire, hein. De suite, on a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Vous imaginez, pendant 3 jours, vous cherchez votre fils pendant 3 jours, parce que vous l'avez oublié, parce que vous l'avez négligé, vous êtes reparti, vous en êtes rendu compte au bout d'un jour. Eux, ils savaient qu'il était important de le retrouver, parce que c'est leur fils, mais c'était plus que leur fils. Marie savait très bien qui était Jésus. L'ange était venu lui parler. L'ange lui avait dit, il sera appelé fils du Très-Haut. L'ange lui avait dit, Dieu l'assiera sur le trône de David. L'ange lui avait dit, il règnera éternellement sur la tribu de Jacob. Voilà ce que lui avait dit l'ange. Marie, elle savait très bien qui était Jésus. Elle ne pouvait pas se permettre de le perdre. Pourtant, elle va le perdre. Elle va perdre cet enfant. Cet enfant décrit par l'ange, elle va le perdre. Elle va l'oublier. 12 ans après. Personne ici peut dire, j'oublierai jamais Jésus. Si même sa mère l'a oublié. On oublie très vite les cadeaux. Hein. Très très vite les cadeaux. Il y a un mois, c'était Noël. On a tous reçu des cadeaux. Notamment les plus petits. Je ne sais pas où sont les cadeaux maintenant. Mais au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, les cadeaux, ils sont rangés dans une armoire. Ils sont dans un coin. Ils sont vendus sur Internet. Maintenant, on vend ces cadeaux sur Internet. On se les fait rembourser même. Parce que maintenant, on offre les cadeaux avec le ticket de caisse. Les gens, ils vont au magasin, ils se font rembourser le cadeau. Voilà ce qu'on fait des cadeaux. Il y a un mois, on est le 26 janvier, donc il y a un mois, c'était Jésus, le cadeau pour les hommes, le cadeau fait aux hommes. C'était le véritable cadeau de Noël. Voilà qui était Jésus, il y a un mois. Un mois plus tard, il est où ? On est parti dans nos projets. Il est où, Jésus ? Dans tes projets de vacances, dans tes projets de changement de travail, de travaux à la maison. Il est où, Jésus ? Il y a un mois, c'était ton cadeau, et aujourd'hui, il est où ? Vous demandez aux enfants aujourd'hui, il est où ton cadeau de Noël ? Il est où ton cadeau ? Je ne sais pas. On oublie les cadeaux. On oublie les cadeaux parce que des fois, on a eu d'autres cadeaux. On a trop de cadeaux. 1 cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. On ne sait plus où est le premier cadeau parce qu'on est là, on est occupé par le troisième. On ne sait plus où est le cadeau. Moi, j'ai des enfants. Alors, on a tellement de jouets. Au bout d'un moment, on dit, ben, on va les donner. On ne peut pas garder tous ces jouets. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend les jouets, on les donne. Je donne les jouets, je regarde les jouets, je me rappelle, je dis, ah ben ce cadeau-là. Il le voulait tellement, ce cadeau. Ah, c'était le cadeau, il le fallait à tout prix. C'est le jouet, il fallait vraiment ce jouet. Et aujourd'hui, c'est quoi ? On le veut plus. On le donne. Est-ce qu'on n'est pas des enfants, nous, vis-à-vis de Jésus ? Vis-à-vis de ce véritable cadeau de Noël que nous avons tous reçu. Est-ce qu'on n'est pas des enfants vis-à-vis de lui ? On l'a oublié. Il y a d'autres choses qui sont venues. On n'y pense plus trop. Il y a une nouvelle série télé. On va regarder la série télé. Je regarde la série télé. Mais Jésus, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que Jésus, ok, c'est le véritable cadeau de Noël, mais c'est le seul cadeau. Vous n'aurez pas d'autres cadeaux. Dieu ne va pas vous donner un autre cadeau. Vous n'aurez pas un deuxième cadeau, un troisième cadeau. Vous aurez que Jésus. C'est déjà illimité comme cadeau pour nos vies. Mais Dieu ne nous donnera pas un autre cadeau. N'allez pas chercher notre cadeau. N'allez pas chercher une distraction. N'allez pas chercher autre chose pour remplir votre vie. Gardez le cadeau que vous a donné Dieu. Le cadeau que nous a donné Dieu, c'est Jésus. C'est le salut pour quiconque croit. Il n'y a pas d'autre cadeau. Cherchons pas d'autres cadeaux. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré nos comportements, malgré nos attitudes, malgré qu'on l'ait oublié, malgré qu'on l'ait délaissé, mais il sera toujours là, les bras ouverts. Amen. Pour chacun de nous. Dans Deutéronome 4, 29, il est dit, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Il nous accueillera les bras ouverts, mais il va falloir le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est venu ce matin, qui a oublié Jésus, qui s'en est rendu compte, il le sait. Quelqu'un qui a pris la décision de le suivre, c'est que si tu le cherches de tout ton cœur, si tu es venu ce matin le chercher de tout ton cœur, si tu es venu ce matin le chercher de toute ton âme, tu vas repartir avec lui ce matin. Amen. Tu vas pas repartir sans lui ce matin. Si ton cœur est comme ça, si c'est ça que tu as dans ton cœur, tu repartiras pas sans lui ce matin. Amen. Les quatre bénédictions pour ceux qui ont cherché Jésus de tout leur cœur, on les a aussi dans le texte. La première, verset 51, il descendit avec eux à Nazareth. Il est descendu. Il descend avec toi. Nous, on est en bas. On est en bas, nous. Hein. On est égocentrique, on se prend pour les rois de nos vies. Mais la vérité, c'est qu'on est en bas. Et lui, il est tout en haut. Il peut pas être plus haut. Mais il va descendre jusqu'à nous. Il descend jusqu'à nous. Et même si on a mené notre vie comme il nous semblait bon de le faire, sans se préoccuper de lui, même si on l'a oublié, qu'on s'est éloigné, quand on va revenir, sachez que celui qui est dans cette situation sache que il ne te le reprochera pas. Il n'est pas un Dieu de reproche, il est un Dieu de promesse. Il n'est pas un Dieu de reproche, il est un Dieu de promesse. Il revient avec toi dans ton projet, il reprend le projet avec toi. Et toutes choses deviennent nouvelles. Tout ce qui était compromis est rempli de promesses. Tout ce qui était détruit se reconstruit. Voilà la bonne nouvelle. La deuxième bénédiction, il devient notre serviteur. Au verset 51, on nous dit, il leur était soumis. Comment expliquer ça? Le Fils de Dieu, la parole, il nous est soumis. Il est notre serviteur. Comment expliquer ça? Philippiens 2, 7 dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Jésus, il a consacré sa vie sur terre pour nous, pour les hommes. Bien avant la croix. Bien avant la croix, il a renoncé à une vie de famille, il a renoncé à un travail, il a renoncé à plein de choses dans lesquelles nous, on saute à pieds joints. Mais lui, il a tout repoussé pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il monte sur la croix, qu'il s'offre un sacrifice pour nos péchés. Ça, c'est pas un projet qu'on voudrait, nous. Hein. Personne voudrait ce projet-là. Lui, il a tout laissé, il a tout mis de côté. Il a abandonné complètement sa vie pour nous, jusqu'à monter sur la croix. Et il devient notre serviteur pour ça. Mais c'est pas un serviteur du monde, Jésus. Hein. C'est pas quelqu'un à qui on donne des ordres et qui les exécute. C'est pas ça. Ça, c'est la définition du serviteur dans le monde. Mais Jésus, c'est pas ça. Jésus, il nous aime, lui. Pourquoi Jésus est auprès de nous? Pourquoi il nous soutient jour après jour? Pourquoi il nous relève de nos maladies, de nos épreuves? Pourquoi il nous apporte son aide? C'est parce qu'il nous aime. Il met tout ça à notre service. Son amour, sa compassion, sa bonté, sa fidélité. Voilà le service qu'il nous donne. Voilà ce qu'il nous apporte. Voilà ce qu'il a à nous offrir. Il travaille pour ceux qui se confient en lui. La troisième bénédiction, c'est qu'il réjouit nos cœurs. Au verset 51, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Le cœur en grec, c'est cardia. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est ce qui est vraiment au cœur des choses. C'est le cœur naturel, on va dire, l'organe, mais être au cœur des choses, c'est être au centre. C'est le siège de notre foi. C'est là qu'est toute notre vie spirituelle. C'est là qu'on garde en mémoire toutes les choses que Dieu nous a données, toutes les choses que Jésus nous a apportées dans notre vie. Et quand on dit que sa mère gardait tout ça dans son cœur, c'est ça. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà à quoi nous invite la parole de Dieu, à garder les choses au cœur, à garder les choses au centre de notre cœur. Quatrième bénédiction, il reprend sa place en nous. Verset 52, Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Maintenant qu'on l'a laissé grandir, maintenant qu'on lui laisse la place, voilà ce qui va se passer. Il va grandir dans nos cœurs, il va grandir dans nos vies. En sagesse, en stature et en grâce. Plus il grandit en nous, plus notre orgueil diminue. Plus il grandit en nous, plus notre immoralité diminue. Plus il grandit en nous, plus notre faiblesse diminue. Et plus il grandit en nous, plus son esprit nous remplit. Nous, loin de Jésus, on n'est pas beau à voir. Hein. Nous, loin de Jésus, on pense qu'à nous. C'est triste à voir. C'est moi, c'est ma vie, mon travail, ma voiture, mon argent, mes diplômes. Moi. Voilà ce qu'on est loin de Jésus. Mais quand Jésus est là, quand Jésus est dans un cœur, quand Jésus est dans une vie, tout change. Tout change. Quand Jésus est au centre de ta vie, tout change. Toutes les choses sont passées. Toutes les mauvaises choses sont passées. Toutes les choses de ce monde sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. N'oublions pas Jésus. Un jour, il va revenir, vous le savez. Jésus, un jour, va revenir. Il va revenir pour ceux qui l'attendent. Mais est-ce qu'il va trouver la foi chez nous à ce moment-là? Est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi chez toi? Est-ce que tu as oublié Jésus? Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu étais avec lui? Est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu étais dans sa présence? Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as ressenti de l'amour pour lui? La dernière fois que tu lui as exprimé cet amour, c'était quand? Est-ce que tu as cette vraie communion avec Jésus? Est-ce que tu as cette vraie intimité avec lui? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Peut-être que quelqu'un ne l'a jamais rencontré vraiment. Et si tu l'as déjà rencontré, est-ce que tu marches encore avec lui? Est-ce que ta main est toujours dans la sienne? Et ce matin, pendant ce culte, est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as entendu sa voix ce matin? Pendant ce culte, pendant ce message, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Je disais tout à l'heure que Job avait tout perdu, mais il avait gardé sa relation avec Dieu. Voilà ce qu'on peut se souhaiter pour cette année. Être dans la présence de Jésus, jour après jour. Penser à lui tous les jours, en tout lieu, en toutes circonstances, le matin, le midi, le soir, dans la voiture, au travail, dans mes affaires, dans mes transports. Souvenez-vous toujours de Jésus. N'oubliez pas, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est le seul cadeau que Dieu nous a donné. Il n'y en a pas d'autre. Il est le don gratuit de Dieu. Le salut pour quiconque croit. Seigneur, nous te remettons nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos âmes. Toi qui es amour, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous ici, dans ce lieu, ici présent dans ce lieu, nos vies sont remplies de quantité de choses, des priorités, comme des choses complètement inutiles. Seigneur, apprends-nous à considérer que tu es la vraie priorité. Oh Seigneur, apprends-nous à faire de toi notre priorité numéro un, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous t'avons négligé, toutes ces fois où nous t'avons oublié, toutes ces fois où nous t'avons laissé de côté. Pardon pour toutes ces fois où je t'ignore, toutes ces fois où dans ma vie je te mets de côté et je fais autre chose. Oh Seigneur, je veux te prier pour ton bien-aimé, ce bien-aimé qui a entendu ta parole ce matin, ton appel. Seigneur, descends avec lui comme tu l'as fait. Descends avec lui ce matin, Seigneur. Reprends ta place dans sa vie. Oh Seigneur, grandis dans son cœur. Remplis-le de ta présence. Deviens le centre de sa vie, Seigneur. Oh, que tu sois au centre de nos vies. Reçois maintenant, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Oh Seigneur, reçois notre adoration. Regarde au-dedans de nous, Seigneur, et reconnais ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur. Oh, ceux qui te cherchent de toute leur âme, tu les connais parce que tu connais leur cœur. Oh Seigneur, deviens ou redeviens le centre de notre vie. Oh Seigneur, merci. Merci de ta présence, merci de nous avoir parlé ce matin. Merci pour ta voix qui nous appelle à toi. À toi soit l'honneur, Jésus. Amen.